Bien, bonjour, je suis ravi de participer à ce séminaire. Donc je vais vous parler d'accords environnementaux ou de désaccords, des raisons pour le désaccord. Alors je suis arrivé sur ces problèmes de réchauffement climatique par une voie un peu détournée. En fait, j'ai eu un accident assez grave. Et pendant l'été, j'ai essayé de récupérer. Et je me suis dit, maintenant, après avoir passé 20 ans de ta carrière à faire des articles d'économie sans intérêt, essayons de faire quelques articles qui peuvent avoir un certain intérêt. On ne sait jamais. Donc, il faisait chaud. J'avais la visite de quelques co-auteurs. Et on a commencé à discuter de ces problèmes de réchauffement climatique. Et avec une perspective qui était la nôtre, qui était celle du mechanism design. Je vais revenir plus tard sur ce qu'est le mechanism design. Alors, comment je tourne les pages? Peut-être comme ça, simplement. Dans un premier temps, je vais rappeler quelques évidences. Avant de développer un peu ce cadre conceptuel qui va me permettre de parler d'accord et de désaccord. Donc les évidences, c'est qu'on est à peu près tous d'accord aujourd'hui sur le fait que dans un futur proche, si rien n'est fait, eh bien, le réchauffement climatique va avoir un impact déterminant sur l'économie, sur le PIB. Et que les dommages économiques peuvent être significatifs. C'est un des grands messages du rapport Stern. En fait, tous les papiers sur les accords environnementaux commencent un peu pareil. Donc je suis le marronnier habituel. Hein. Parlons du rapport Stern, dont je parle du rapport Stern. En fait, je vais rapidement m'en éloigner pour souligner les aspects qui m'intéressent plus particulièrement. Les aspects qui m'intéressent, c'est qu'au fond... Il y a quand même pas mal d'hétérogénéité entre les pays vis-à-vis de ce problème de réchauffement climatique. Il y a des hétérogénéités en termes de coûts subis. Peut-être que pour certains, imaginons le Canada, il y a aussi des bénéfices possibles au réchauffement climatique. Donc il y a cette hétérogénéité, il y a aussi cette incertitude possible sur les trajectoires climatiques et économiques que vont suivre les économies. Et au-delà de ces incertitudes, il y a aussi des forces internes à l'intérieur des pays qui font qu'il y a des jeux politiques, des groupes d'intérêts, des pressions, des dimensions en fait qui entourent les accords, qui structurent ces accords. Ces dimensions font qu'il y a beaucoup d'informations incomplètes ou asymétriques, du moins, entre les différentes parties à la table des négociations. Et cette information asymétrique, je vous l'ai démontré par la suite, a un impact déterminant sur la faisabilité des accords. Donc on a de l'information asymétrique, on a des objectifs dissonants, hein, on ne va pas comparer le Canada, la Suisse et l'Éthiopie dans les problèmes de réchauffement climatique. Les incitations des acteurs sont différentes, des incitations des pays, peut-être que les incitations des entreprises, des individus, des citoyens à l'intérieur même de ces pays sont elles-mêmes différentes. Donc du point de vue de pratique, on est face à un incroyable défi qui est comment essayer de faire s'accorder des pays, des États souverains. Enfin, je vais insister sur ce terme, mais la souveraineté va jouer un rôle déterminant dans les contraintes qui s'imposent aux accords environnementaux. Comment faire que ces États souverains peuvent ou s'accorder sur des politiques de lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a des conditions pour s'accorder, ou plus généralement, des conditions pour ne pas s'accorder aussi, quoi. Alors, plus pessimiste, de manière plus pessimiste. Donc, du point de vue de la théorie économique, je suis un théoricien, hein, je ne vais pas vous expliquer le réchauffement climatique, c'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas mon avantage comparatif. Donc, du point de vue de la théorie économique, ce problème a quand même quelques spécificités qui, au final, n'ont peut-être pas été si étudiées que ça, hein, dans la théorie. Le premier problème, c'est qu'un environnement propre, un climat contrôlé, c'est un bien public. Un climat détérioré, c'est un mal public. Un bien public, qu'est-ce que c'est? Une définition un petit peu un petit peu d'économie 001, eh bien, chacun va bénéficier du maintien de ce bien public, de ce climat dans de bonnes conditions, mais les bénéfices de chacun étant limités, les efforts individuels pour y parvenir, les efforts individuels au niveau des pays, peut-être à l'intérieur des pays, au niveau des citoyens, des firmes, des entreprises, les efforts individuels pour y parvenir sont insuffisants. Donc ça, c'est ce que les économistes appellent un problème typique de passager clandestin ou de free riding. Je vais plutôt employer le terme anglo-saxon aujourd'hui. Donc les conséquences de ce problème de free riding, du fait que chaque individu finalement ne perçoit qu'une fraction des conséquences de son action sur l'environnement, et bien les conséquences de ce... on va avoir des efforts individuels insuffisants dont l'environnement va se détériorer de manière significative. Et donc il résulte de ce problème de free riding une détérioration du climat. Donc ça, c'est le problème de bien public général. Ce n'est pas vrai uniquement pour le climat, mais pour tous les biens publics auxquels on peut penser, nous, économistes. Donc la première question, c'est essayer de construire des mécanismes qui vont réajuster les incitations des acteurs et les faire internaliser un petit peu les conséquences de leurs actions sur le monde entier, quoi, sur le reste de la société, sur la planète tout entière. Donc, les économistes ont plusieurs outils dans leur boîte à outils pour essayer de réajuster les incitations. La première, c'est le marché. Donc, on en a parlé, le marché de permis. On va y revenir par la suite. La deuxième, c'est le contrat. On peut essayer d'écrire des contrats pour engager les parties à des trajectoires qui vont essayer de maintenir un niveau de bien public. Et puis, on peut avoir aussi des jeux plus décentralisés, des contributions volontaires. On peut vouloir contribuer à la production des biens publics. Il y a toute une littérature maintenant en économie expérimentale au niveau des individus, sur le comportement des individus, sur la manière dont ils contribuent volontairement dans des petits jeux, dans des petites expériences de production de biens publics, comment la pression sociale, les préférences peut-être altruistes pour ce qui arrive à mon voisin font que je vais contribuer au bien commun. Donc on peut imaginer toutes sortes de solutions et on va en discuter une ou deux par la suite. Donc le bien public, le problème de bien public, c'est un problème majeur de la théorie économique. Je vais refaire un petit historique dans quelques minutes, mais il faut bien avoir l'idée que quelques-uns des résultats les plus importants de la théorie économique de ces 50 dernières années sont probablement dus à l'étude de ce problème des biens publics, quoi. Donc c'est quand même c'est notre marronnier à nous, quoi. Donc, c'est quelque chose qui revient régulièrement et dès qu'on a un nouvel outil théorique ou conceptuel, on va chercher à l'appliquer à la théorie des biens publics. Ici, on est en train de parler d'un bien public un peu particulier, c'est un bien public global, quoi. On n'est pas au niveau d'un bien public produit localement par une municipalité ou par un État. On est en train de parler d'un bien public affectant des États souverains dans un monde où il n'y a pas de gouvernance globale pour imposer des solutions centralisées. Donc il va falloir, dans les mécanismes auxquels on peut réfléchir pour avoir des accords environnementaux, pour produire du bien public, pour produire du climat propre, il va falloir avoir à l'esprit une contrainte de base qui est une contrainte de participation par des États souverains. Donc c'est une différence quand même assez fondamentale. Il y a certaines solutions auxquelles on peut faire référence, des exemples par exemple de marché de droits pollués, par exemple sur le SO2 en Californie, pour lequel on peut imposer la participation des entreprises à des échanges de quotas, de permis. Ici, on ne peut pas imposer à un pays de venir et de se forcer à participer à un accord environnemental. Il faudra qu'il y trouve un certain bénéfice. Donc, dans ce cadre-là, quelles sont les contraintes institutionnelles? On ne peut rien imposer, il faut que les choses se passent en respectant des contraintes de participation. Donc, c'est un défi théorique intéressant aussi, parce que Parce que souvent, on a des solutions toutes faites. Nous, économistes, on passe notre temps à avoir des solutions toutes faites. D'ailleurs, on adore ça, quoi. On a des solutions de textbook, hein, de livres de texte, toutes prêtes, qu'on peut vouloir utiliser dans tous les environnements, parce qu'on les connaît bien. Et parfois, les hypothèses sous lesquelles on pourrait les utiliser, on oublie un petit peu ces hypothèses et on fait comme si, quoi. Alors, une des marottes pour résoudre le problème d'externalité environnementale, pour résoudre ces problèmes-là, un des grands outils qu'on a à notre disposition, c'est le théorème de cause. Alors, j'ai fait un magnifique jeu de mots pour vous montrer que ce théorème a quand même une pertinence limitée. Ce théorème, il dit en fait que bon, finalement, les solutions décentralisées, c'est pas la peine. Finalement, on n'a peut-être même pas besoin d'une gouvernance globale pour renforcer des accords environnementaux. Le marchandage décentralisé entre des individus, ou ici des États possibles, le marchandage décentralisé peut, sous certaines hypothèses, atteindre l'efficience économique. Alors, je ne vais pas encore définir ce qu'est l'efficience économique, mais on va y revenir par la suite, mais c'est quelque chose de bien, c'est le meilleur des mondes. On peut, si même dans un problème où il y a des externalités, même lorsqu'a priori mon action a un impact non seulement sur mon payoff, mon bien-être, mais aussi sur ceux des autres pays ou des autres individus qui composent une société, même dans ces contextes d'externalité, eh bien, on peut arriver à des accords, à mettre en œuvre l'efficacité économique au travers de la négociation. Il existe des formes de marchandage. Alors pour ça, il faut que l'information finalement soit complète sur les préférences. Il faut qu'on sache un peu tout de tous les agents qui peuvent être affectés par la négociation. Il faut que l'information soit complète, connaissance commune, on dirait. Il ne faut pas qu'il y ait de coûts de transaction. Alors, la théorie économique est assez vague sur ce que c'est les coûts de transaction, mais ils ont des frictions dans le marchandage. Il ne faut pas qu'il y ait de telles frictions. Il faut qu'il y ait suffisamment de capacité d'engagement. Alors là aussi, on est assez vague pour respecter les accords une fois qu'ils sont en place. Alors, sous ces conditions-là, le théorème de cause s'applique et finalement les négociations environnementales décentralisées, de gré à gré, pourraient suffire à atteindre l'efficacité. Donc c'est merveilleux. Dans le monde de cause, le problème du réchauffement climatique n'en est pas un, parce que nous allons tous nous mettre d'accord sur les bons outils et les bonnes trajectoires politico-climato-économiques. Bien, donc on sait qu'il y a comme une longue série d'échecs dans les négociations, ou de retards, ou de délais, qui sont inexplicables par le théorème de cause. Parce que s'il y a des gains d'efficacité à obtenir, dans un monde où il n'y a pas de friction, où l'information est complète, et où on peut s'engager sur les investissements possibles, peut-être, pour lutter contre le réchauffement climatique, dans ce monde-là, les accords globaux sont possibles, seront atteints, et puis ce n'est pas la peine d'attendre, on peut les atteindre de suite, et faisons-le. Donc il y a des raisons fondamentales à l'échec de ces négociations. Il y a des raisons profondes. Et c'est ce qu'on va essayer de dévoiler aujourd'hui, quoi. Quelles sont les raisons profondes qui font qu'on n'est pas dans le monde causien, la négociation échoue, et qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde de second rang? Quand les économistes ne peuvent pas atteindre l'efficacité économique, quand ils ne peuvent pas atteindre le premier rang, ils se réfugient dans le second rang. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est le second rang, ça dépend des contraintes supplémentaires qu'on va imposer à la recherche des mécanismes, des solutions, mais c'est là que l'économie moderne prend exprime toute sa puissance. C'est là qu'on se régale, nous, économistes, c'est dans le second rang. Le premier rang, on n'y croit plus beaucoup. Donc, on va essayer de construire un cadre plus réaliste pour parler des négociations environnementales. Mais bon, de l'environnement, vous pourrez passer à autre chose et voir que les principes de base des théories que je vais présenter, de la théorie que je vais présenter, s'appliquent aussi à d'autres types de négociations, sur la dette ou que sais-je encore. Donc, on va parler de la théorie du mechanism design, Alors c'est un peu, donc c'est encore une fois un peu d'anglo-saxon, mais l'architecture des mécanismes ou le design des mécanismes, ça va pas faire beaucoup mieux. L'architecture des mécanismes, c'est pas super super parlant non plus. Donc on va garder mechanism design comme expression générale, comme terme générique pour parler de comment construire des solutions de second rang à tous ces problèmes. Et ces solutions de second rang, elles apparaissent dès lors qu'on a des contraintes supplémentaires, comme je disais, qui s'imposent. Et ces contraintes supplémentaires, celles qui vont m'intéresser aujourd'hui, ce sont des contraintes d'information asymétrique. Les parties, dans une négociation, détiennent des informations privées sur leurs préférences, sur les coûts, par exemple, d'ajustement, les coûts qu'on va avoir à affronter au niveau local pour mettre en œuvre une politique environnementale efficace au niveau global. On va avoir de l'information privée là, sur ces coûts-là, ou peut-être sur des coûts politiques à convaincre les groupes de pression domestiques avant d'aller dans une négociation. Il y a tout un tas d'informations privées qui nous font nous éloigner du monde causien. Premier point. L'information privée en tant que telle, on peut, elle n'est pas un problème si on pouvait imposer les solutions avec une gouvernance extérieure, globale, internationale, imposant à tous les États de participer à certains mécanismes. Mais la deuxième contrainte, c'est que la participation doit être volontaire. Et la troisième contrainte, dont je parlerai un peu moins aujourd'hui, mais qui a fait l'objet un peu de certains de mes travaux, consiste aussi à rajouter une capacité d'engagement des parties à la négociation qui est limitée. Hein? On sait que les gouvernements vont changer, les préférences peut-être vont changer vis-à-vis du réchauffement climatique, et donc on a des capacités d'engagement sur des profils d'investissement, par exemple, qui peuvent être limitées. Donc ça, c'est une autre friction qui peut nous éloigner du monde causien. Okay. Donc voilà, la théorie du mechanism design, c'est une théorie qui ajoute des problèmes d'information, qui regarde comment ces problèmes peuvent être en conflit avec des problèmes de participation, et qui offre une manière de discuter de politique de second rang qui nous fait nous éloigner du modèle causien. Donc, alors, qu'est-ce que c'est plus... Je pense qu'on apprend pas mal de la théorie économique en regardant comment elle est construite, comment elle s'est construite. Et donc, en fait, c'est toujours utile, je trouve, de faire un petit rappel historique sur l'état des savoirs à différents points dans le temps. Donc, le problème des biens publics, comme je vous l'ai dit... En introduction, c'est un problème qui revient régulièrement dans la théorie économique et qui pèse sur son développement. Quoi. Donc, le problème, encore une fois, je rappelle, c'est la dissonance entre les incitations individuelles à faire des efforts pour maintenir le niveau de biens publics, pour maintenir un climat propre, et le bien-être collectif, les conséquences collectives de l'action. En général, les gens n'internalisant pas toutes les conséquences de leur action pour le reste de la société ou pour le reste du monde ont tendance à ne pas faire assez d'efforts, pas assez d'investissements dans les biens publics. Donc, ce problème-là, une des premières solutions pour le résoudre a été proposée par Lindahl, qui consiste à avoir des marchés individuels dans lequel on va présenter à chaque individu des prix personnalisés, et c'est par rapport à ces prix que chaque individu va faire ses décisions sur les biens publics. Ensuite, on va avoir une règle d'agrégation de ces prix pour savoir quel est le niveau de biens publics qu'on va produire au niveau de la société. Mais l'idée de base, c'est qu'il y a des marchés individuels. Alors, c'est avec des prix dans cette solution de Lindahl. On est dans un monde d'information complète, où chaque individu adopte un comportement non stratégique par rapport aux prix qu'il paie pour le bien public. C'est des prix individualisés, mais cependant, je reste non stratégique. Donc il y a une espèce de hiatus entre ces deux possibilités. Et en fait, les mécanismes de Lindahl peuvent être manipulés par des comportements stratégiques des individus. Il n'y a pas de raison de se comporter de manière concurrentielle sur un marché où vous êtes tout seul. Donc la solution de Lindahl a vite été abandonnée. Et elle a été abandonnée doublement parce que pour créer des prix de Lindahl, pour créer des prix individualisés pour le bien public, il faudrait avoir l'information parfaite sur les préférences de chacun. Parce que le prix que chacun doit être prêt à payer pour le bien public doit refléter ses préférences. Donc le planificateur dans une solution organisant ces marchés séparés doit avoir connaissance parfaite de toutes les préférences des individus. Et ça, c'est bien sûr une hypothèse discutable et qui a été discutée. Et dans les années 70, il y a eu une révolution en théorie économique qui a été d'introduire la notion d'information privée, et de regarder comment cette information privée affecte la qualité des échanges. Et donc, il était assez naturel d'appliquer ces idées-là au problème des biens publics. C'est ce qui a été fait dans une série de travaux assez innovants par Grove, Green et Lafont au début des années 70. Donc en gros, c'est des héritiers de Samuelson et de Harrow. Samuelson, à cause de ce problème de biens publics, parce que Samuelson avait pointé très tôt la manipulabilité des mécanismes de Lindahl. C'est des héritiers d'Harrow parce que d'abord, pour Green ou Lafont, c'était des étudiants d'Harrow et Harrow leur avait expliqué l'intérêt d'introduire les contraintes d'information dans ces problèmes-là. Et ces gens-là ont bâti une théorie qui aujourd'hui est encore sur le devant de la scène. La théorie des mécanismes est une théorie très très importante dans toute l'économie moderne, mais ils l'ont bâti précisément à partir de ce problème des biens publics. Okay. Donc, cette théorie-là leur a permis de traiter du problème de free riding et de lui donner des fondations informationnelles. Donc, le cadre développé, c'est un cadre dans lequel on a des agents qui ont des préférences qui sont leur information privée. Donc, ils évaluent de manière privée le bénéfice d'avoir un bien public. Ils ont cette information privée et ils peuvent vouloir manipuler ces préférences, prétendre que pour eux, ce n'est pas si important que ça de lutter contre le réchauffement climatique. Et ainsi, moins contribuer, moins donner d'argent, moins mettre d'argent sur la table, moins investir, moins faire d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ils peuvent bénéficier de cette information privée pour manipuler le mécanisme. Et donc, il s'agit de construire des mécanismes non manipulables qui alignent les préférences des acteurs, les préférences individuelles des acteurs avec les préférences de la société dans son ensemble. Donc, c'est un problème difficile. Donc, vous avez des gens que vous ne connaissez pas, ils peuvent prendre des actions et il faut aligner ces actions avec celles de la société dans son ensemble. Il y a des solutions, mais il y a des solutions qui sont possibles dans certains environnements institutionnels et qui échouent dans d'autres. La première vague de solutions qui fut proposée consiste en fait à faire payer à chaque individu une taxe qui reflète l'impact de son action sur le reste de la société. Okay. Donc, ces mécanismes font en quelque sorte payer à chaque individu l'externalité qu'il exerce par son action, par son choix d'investissement dans le bien public, sur le reste des individus. Donc on peut construire des mécanismes, c'est les fameux mécanismes de Grove, comme les appelaient Green et Lafont. Grove a inventé ces mécanismes, mais ce n'est pas lui qui leur a donné son nom, c'est Green et Lafont qui ont ensuite donné le nom. Et on peut faire ça suivant différentes conditions. On peut faire ça en voulant respecter un certain équilibre budgétaire. Il faut que, par exemple, le système de taxes soit balancé. Ou on peut faire ça sans respecter l'équilibre budgétaire. C'est plus facile de faire Alors, il y a tout un tas de notions, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais de notions plus de mise en œuvre des mécanismes, d'implémentation, pour employer un mot de jargon, d'implémentation des mécanismes qui permettent de réaliser, de construire ces mécanismes Pay-as-you Externality et de respecter à la fois les contraintes budgétaires. Parfois, si on impose ces contraintes budgétaires, on ne peut plus faire des mécanismes Pay-as-you Externality, suivant le concept d'implémentation. Bon, passons sur ces détails-là. Mais l'idée, c'est que le problème d'information en tant que tel n'est pas forcément un problème. Je peux le résoudre. Si ce problème d'information n'est pas couplé à un deuxième problème, qui est le problème de participation volontaire au mécanisme. C'est précisément lorsque on va demander aux agents s'ils veulent participer ou pas au mécanisme que là, l'information peut rentrer en conflit. Les contraintes informationnelles peuvent rentrer en conflit avec les contraintes de participation. C'est un résultat extrêmement important de la théorie économique. Et c'est un résultat qui a été démontré une première fois par Lafont et Maskin, puis dans un contexte très très différent, dans un contexte d'échanges bilatéraux par Meyerson et Satterthwaite. Puis, en fait, en revenant encore une fois au bien public, dans des économies larges, avec un grand nombre de participants, potentiellement, par Mellat et Postlewaite. Et c'est dans ce monde-là où on va avoir un conflit entre la participation au mécanisme et les incitations, qu'on va être dans le second rang, qu'on va avoir des inefficacités, qu'on ne va plus avoir des négociations efficaces, si vous voulez. Et il y a quelques exemples d'application de ces théorèmes d'inefficacité, notamment dans le domaine environnemental par quelques auteurs. Ces applications-là, en fait, sont inadaptées pour parler du problème de réchauffement climatique. C'est des modèles qui considèrent que chaque participant au problème de bien public, au problème de mécanisme finançant un bien public, chaque participant a un droit de veto sur le mécanisme. C'est-à-dire que s'il se retire, rien ne se passera. Donc, ces résultats d'inefficacité, dans ces articles de Lafont, Maskin ou Mellat et Postlewaite et leurs applications dans le domaine environnemental, sont basés sur une hypothèse très importante, c'est que si je me retire, si je dis non à la négociation, il ne se passera rien du tout. Non seulement je suis souverain, mais j'ai le droit de veto. En fait, c'est très fort. Quoi. C'est une contrainte très pesante sur les mécanismes. Donc, ce que j'ai cherché à faire avec un co-auteur, Wilfried Sandman, qui est prof à l'université de Toulouse, nous avons cherché à construire un mécanisme, des mécanismes qui permettent de traiter de ce problème de free-riding, de passagers clandestins, dans des environnements où la participation est une notion plus faible. Je me retire d'un accord environnemental, peut-être que les autres vont continuer. Peut-être qu'ils ne vont pas continuer, mais il y aura quelque chose. Il y aura une trajectoire politico-économique quoi, ou climato-économique. Il y aura un business as usual, peut-être. Si je me retire, il se passe quelque chose quand même, quand le monde continue. La manière d'écrire les contraintes de participation va être maintenant déterminante pour évaluer les conditions sous lesquelles l'efficacité est possible, est accessible, atteignable. Okay. Donc, on a donc une petite série de travaux, et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une version édulcorée d'un de ces articles. Lorsqu'on met la participation au cœur de l'analyse, en fait, on introduit deux formes de free-riding. La première forme de free-riding, c'est le free-riding qui existe déjà chez Grove, Ledyard, Green, Lafont, Mellat, Postlewaite, chez tous les autres. C'est le free-riding marginal, le free-riding à la marge intensive. Si vous avez une préférence pour le bien public qui est assez marqué, et si on vous demandait de le financer à hauteur de ses préférences, mais si vous avez l'information privée maintenant sur ces préférences, vous avez eu envie de les cacher un petit peu, de dire non, je ne suis pas prêt à payer autant. Donc, mais vous n'êtes pas prêt à payer autant, mais vous êtes prêt à payer quand même un peu, quoi. Donc c'est un free riding marginal, à la marge intensive, on dirait. Donc ça, c'est le freeriding étudié par la littérature jusqu'à présent. C'est le freeriding sur les qui porte uniquement sur les incitations, hein, sur je vais investir un petit peu moins pour faire croire que j'en ai pas tant envie, que j'ai pas autant envie que ça de lutter contre le réchauffement. Hein. C'est à la marge intensive. C'est ce que j'appelle la frime. La deuxième forme de freeriding, lorsqu'on parle d'accords environnementaux où on a participé ou pas, c'est un freeriding à la marche extensive. Il y a une décision 0 ou 1. Soit j'y suis, soit j'y suis pas. Certains pays peuvent préférer ne pas participer. Et tout ça, si j'y suis ou si j'y suis pas, viendra de la comparaison entre les gains respectifs à être dans le mécanisme ou à être en dehors. Okay. Et donc, et ça, c'est une forme nouvelle de freeriding. C'est une forme qui, dans la théorie du mécanisme design, n'a pas été vraiment étudiée et qu'on étudie dans ces articles. Donc, et ce que j'appelle ça la frame. Donc, qu'est-ce que c'est que la frame ? Donc, c'est spécifiquement lié au problème de participation. Donc, le problème de participation, arrêtons-nous un peu pour essayer de comprendre, de visualiser ce problème de participation sans pour l'instant mettre trop d'équations dessus. Donc, je participe à un accord si les gains à participer à cet accord sont bien sûr supérieurs aux gains à ne pas y participer. C'est une trivialité, mais il se cache beaucoup de choses derrière cette trivialité, comme souvent derrière toutes les trivialités. Qu'est-ce que c'est que le gain à ne pas y participer si je décide de me retirer d'une coalition, d'un accord environnemental? Je dois former des conjectures sur ce qui se passe si je n'y suis pas. Donc, ces conjectures peuvent être très variées. On a beaucoup de possibilités. Une première possibilité, c'est l'unanimité. C'est si je ne participe pas, j'ai en quelque sorte un droit de veto sur les accords environnementaux. Si je ne participe pas, personne ne participera. Donc ça donne lieu à certaines trajectoires. Peut-être que tout le monde reste ensuite sur une trajectoire de type business as usual. Personne ne participe. Et voilà. Donc ça, on imagine assez bien que ce type de conjecture est plus facile à satisfaire. Parce que si lorsque je sors de coalition, c'est la fin du monde, personne ne se mettra d'accord. Et on voit que je me taxe moi-même. Quoi. Je sors de l'accord. Mais je vais être puni par le fait que les autres ne se mettant pas d'accord, il va y avoir production peut-être d'assez peu de biens publics, et donc c'est quand même un niveau de gain qui est assez faible. Si par contre, lorsque je sors de la coalition, eh bien, les autres restent à la table de la négociation, continuent à négocier, se disent « Non, on ne peut pas, il faut quand même qu'on ait un accord, il faut qu'on fasse quelque chose. » Ah là, on voit que j'ai tout intérêt à sortir. Parce que j'ai plus d'intérêt, c'est plus facile pour moi de sortir. Parce que lorsque je vais sortir, si les autres continuent à lutter contre le réchauffement climatique, ben, j'ai mon freeriding, ma frame, là, mon freeriding à la marge extensive. Le niveau de bien public va quand même être assez important, le climat pas trop détérioré. Ça me donne vraiment envie de sortir. J'ai vraiment pas envie de payer les coûts d'être dans un accord si, lorsque j'en sors, il y a quand même un accord. Quoi. Donc, cette question de la participation et de comment on écrit la participation, quelles sont les capacités d'engagement de ceux qui restent à la table de négociation. Si ceux qui restent à la table de négociation ont peu de capacités d'engagement, si on sait qu'ils vont signer pour sûr quelque chose, qu'ils vont se mettre d'accord, eh bien, le freeriding à la marge extensive, il est très très fort. Vous n'avez vraiment pas envie de participer à un accord où les autres sont déjà... Vous allez pouvoir bénéficier, freerider à fond sur le fait que ceux qui y sont vont faire les efforts pour vous. Okay. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être très très difficile de mettre en œuvre des politiques efficaces. Tout le monde a envie de sortir parce que tout le monde fait ce raisonnement. On regarde un équilibre de ce système. Tout le monde pense que dans la région où j'habite maintenant, ils ont à Besançon, ils ont une expression, ils disent ils ont meilleur temps. C'est une bonne expression pour dans le cas du réchauffement climatique. Ils ont meilleur temps à sortir de l'accord et à laisser le reste de la coalition se mettre d'accord, négocier sur quelque chose. Donc ce problème de conjecture, il est fondamental. Business as usual est une possibilité, mais il y en a bien d'autres. Et donc, et ce problème-là, il sort dans la théorie du mécanisme que je vais présenter. Il sort sous quelle forme ? Il sort sous la forme de contraintes de participation. Donc ça, c'est une contrainte de participation qui sont en quelque sorte endogènes, quoi, qui dépendent un petit peu des comportements, des préférences. Et c'est quelque chose, un problème, ça donne lieu à des problèmes théoriques assez compliqués de maths, en fait, hein, de contrôle optimal assez complexe qu'on a étudié avec un autre côté. Mais c'est aussi un problème qui apparaît dans une toute autre branche de la littérature. Une branche de la littérature qui a vu les accords environnementaux comme des problèmes de formation de coalition dans des jeux qui sont plus ou moins coopératifs. Et donc il y a une littérature très importante, et à la fois en taille et en valeur, qui a essayé de traiter de la stabilité des coalitions environnementales sans trop se poser les problèmes de quelles sont les décisions que ces coalitions vont faire et surtout en se posant le problème de leur stabilité, des incitations individuelles à rester dans les coalitions ou à en partir. Je ne vais pas traiter de ce que je n'ai pas fait, donc c'est d'autres qui l'ont fait, et je vais plutôt traiter de ce que j'ai regardé. Alors, j'ai quelques formules, quelques équations, juste pour vous donner un peu une idée du type d'analyse qu'on peut faire. Donc, c'est un monde avec un continuum de pays. Je fais le tour à une masse unité. Donc, on n'a pas de gros pays. Hein. Chacun est relativement petit, mais c'est juste pour gagner un peu de tractabilité dans l'approche. C'est pas fondamental. Mais, donc, il y a un continuum de pays et ces pays sont hétérogènes. Ils ont des coûts de mettre en œuvre, des efforts pour réduire la pollution qui sont variables, hein, qui dépendent d'un paramètre. Ce paramètre θ(i)s mesure l'efficacité de chaque pays pour mettre en œuvre des politiques environnementales. Pour réduire le réchauffement. Ces politiques ont des bénéfices locaux ou des bénéfices globaux. Notre interprétation, c'est que les bénéfices globaux, c'est les bénéfices qui arriveront dans le futur, qu'on a des impacts locaux des décisions immédiatement, parce qu'il va falloir changer les investissements, peut-être réorganiser le secteur productif, etc. Et puis ensuite, il y a des bénéfices globaux qui vont venir peut-être avec un climat donc, amélioré. Ce paramètre alpha mesure un petit peu le poids relatif du global et du local, mais encore une fois, c'est juste pour permettre une renormalisation. Les préférences mettent en évidence les coûts, les bénéfices locaux et les bénéfices globaux. C'est au travers de ces bénéfices globaux qu'apparaissent les externalités. On va voir dans quelques minutes quelle est la différence entre l'incitation individuelle à faire des efforts et l'incitation collective, ce qui serait le mieux dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est ce UI, c'est le gain du pays, le bien-être local du pays. Et les TI, c'est peut-être des transferts monétaires qu'on peut organiser au travers d'un mécanisme, des transferts monétaires entre pays, ou on peut leur donner une interprétation plus large aussi. Peut-être qu'on veut conditionner les politiques environnementales à d'autres types de politiques, peut-être aux politiques sur les échanges commerciaux. Peut-être qu'on peut vouloir avoir des politiques donnant-donnant. Si vous investissez plus dans l'environnement, mais peut-être que vous aurez des avantages commerciaux, par exemple. Et tout ça, c'est capturé par cette dimension supplémentaire, par ces espèces de transferts monétaires qu'on va pouvoir organiser entre les pays, qui feront qu'on a un peu un jeu, au niveau de CTI, on a un jeu à somme nulle. Ce que l'on va donner à l'autre, on va le prendre à l'un. L'information privée, donc c'est le cœur de mon analyse, vient du fait qu'il y a de l'information privée sur les coûts d'opportunité à exercer des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ces coûts d'opportunité, ça peut être, encore une fois, les CI, là, ces coûts d'opportunité, ça peut être des coûts de technologie, de changer l'appareil productif, mais ça peut être aussi des coûts de lutter contre les groupes d'intérêt internes qui peuvent s'opposer à des réformes environnementales. Donc, il y a des coûts qui sont variables suivant l'importance de ces groupes d'intérêt. On peut avoir plus ou moins de... Et ça, on n'a pas forcément une forte idée vue de l'extérieur. Donc, bon, passons sur le seul point important, c'est le fait que chaque pays a de l'information privée sur son coût d'opportunité. Ensuite, on va faire comme tous les économistes qui étudient des modèles d'information asymétrique, on va spécifier une distribution possible sur ce qu'on ne connaît pas. On est dans un monde bayésien, quoi, où on a une distribution a priori des possibles paramètres θ qui caractérisent l'efficacité de chaque pays. On a une distribution possible qui, elle, va être connue. Bon. On ne sait pas faire grand-chose dans des mondes un peu moins spécifiés, donc restons dans ce monde-là, ça nous suffira. Le meilleur des mondes possible consisterait à recommander à chaque pays un niveau d'effort, d'investissement, avec en tête l'impact de cet investissement non seulement au niveau local, mais au niveau global. Donc, ça consiste à agréger les utilités, les payoffs, les bien-être de chaque pays dans le monde et d'avoir une espèce de planificateur qui dirait « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». Ce meilleur des mondes possible est, a priori, ce que le marchandage décentralisé de cause pourrait nous amener à réaliser si on était dans un monde d'information complète. Donc, ce meilleur des mondes, eh bien, je prends en compte l'impact de mon effort non seulement au niveau local, mais au niveau global. Une ligne de maths me montre que l'effort reflète précisément mon efficacité, mon paramètre d'efficacité. Et en gros, c'est construit pour ça. J'ai construit mon modèle de manière à ce que le paramètre d'efficacité soit en fait un indicateur de l'effort de premier rang. Toutes les normalisations sont faites pour cela. Donc, l'effort individuel est d'autant plus important que le paramètre θ est important quand le coût est faible. Moins ça vous coûte d'investir, plus vous investissez. Et pour la société, le bon niveau, c'est d'investir en rapport avec votre coût θ. Okay, donc ça, c'est la solution de premier rang. Supposons qu'on n'est pas d'accord et qu'on soit sur une trajectoire de business as usual. C'est-à-dire que chaque individu, chaque pays ne prend en compte que l'impact local lorsqu'il évalue quel est son niveau d'effort. Donc si je prends en compte que l'impact local, je me moque de l'impact global, je le prends comme une donnée, et comme l'impact local est inférieur à l'impact global, j'ai moins envie de faire d'efforts. C'est là qu'est mon phénomène de free-riding, de passagers clandestins, je vais avoir moins d'efforts qu'au premier rang et mon paramètre alpha mesure précisément la proportion de ce moins d'efforts. Et bien sûr, comme cette solution est un équilibre non coopératif entre États, cet équilibre non coopératif donne lieu à des niveaux de bien-être globaux pour la société, pour le monde dans son ensemble, qui sont inférieurs à ceux de premier rang. C'est le résultat du free riding. Donc on va essayer de construire maintenant des mécanismes qui nous éloignent de cette solution de business as usual, de cette trajectoire économique et qui nous rapprochent du premier rang. Le premier rang est inaccessible à cause de l'information asymétrique et des contraintes de participation, mais on va essayer de se trouver quelque part au milieu. Et alors la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser un marché. Alors, mon modèle n'est pas un modèle de pollution, c'est-à-dire que les décisions ne sont pas des pollutions. Les efforts sont des efforts, sont des investissements pour réduire la pollution. Donc, il faut un peu de gymnastique de l'esprit. Je vais parler peut-être par la suite de marché de droit à polluer, alors que les efforts, eux, ne sont pas des pollutions, mais plutôt des investissements. Donc, les marchés correspondants seraient des marchés pour Non pas pour des droits, mais pour des devoirs, quoi, en quelque sorte. Donc supposons qu'on donne à chacun des investissements possibles, E0, hein, des niveaux E0 des forces, c'est leur dotation, c'est leur quota initiaux. Et sur un certain marché, on peut s'échanger au prix P ces dotations. Donc, encore une fois, c'est la version duale du marché de droits pollués. Donc, c'est un peu une gymnastique, mais... Donc, on peut s'échanger sur ces marchés, on peut s'échanger ces devoirs à faire de l'effort. Ceux qui les font facilement, les efforts, ils peuvent en acheter. Ceux qui les font difficilement, ils vont vouloir en vendre pour avoir moins d'efforts à faire que ceux qui leur est prescrit initialement. À cause de l'information asymétrique, les dotations initiales, les E0, les points de référence du marché, sont des choses qui ne dépendent pas des types, qui sont données a priori. Donc tout le monde, quel que soit son paramètre d'état, quelle que soit son information privée, a priori la même dotation. Et ensuite, sur le marché, on peut échanger ses devoirs, on peut échanger ses efforts à faire. On peut échanger ses efforts et quel est le fonctionnement idéal de ce marché? Le fonctionnement idéal de ce marché consiste à avoir un prix sur ces marchés qui reflète l'impact de l'effort, l'impact global de l'effort. Donc, en gros, si l'effort a un impact local alpha, si l'impact marginal de l'effort c'est global, c'est 1 moins alpha, il faut que le prix reflète ce 1 moins alpha. Il faut que la subvention à l'effort reflète l'impact global. Quoi. Hein? Et à ce moment-là, si cette subvention donne des bonnes incitations à la marge à faire de l'effort, si le marché donne les bonnes incitations à la marge à faire de l'effort, si j'ai un moins alpha ici au lieu du prix P du marché, si j'ai ça, ben je ferai un effort qui sera θ, l'effort de premier rang, qui reflètera parfaitement mes préférences. Et à ce moment-là, je peux calculer les dotations de manière très simple pour que ce mécanisme de marché fonctionne parfaitement et alloue les droits efficacement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme? Si le prix de marché, c'est 1 moins alpha, chaque pays internalise parfaitement l'impact de ses efforts sur le reste du monde. Il n'y a donc pas de frime, là. On a cessé la frime. Donc, il n'y a pas d'incitation à free rider, il n'y a pas d'effet de passager clandestin à la marge. Les bons efforts sont réalisés. Le problème de ce mécanisme-là, c'est qu'au final, pour les agents les plus inefficaces, pour ceux qui ont des θ très faibles, qui vont se retrouver en fait à faire peu d'efforts, ces gens-là ont envie de quitter le marché. Ce mécanisme-là n'assure pas la participation des états les plus inefficaces. En particulier, on peut montrer ce théorème. Alors, c'est un théorème, c'est un peu de l'économie floue là, hein, que je suis en train de vous faire. C'est un théorème dont vous ne voyez pas très bien les hypothèses. Le libellé du théorème est aussi assez imprécis. Presque jamais, ça ne veut rien dire. Il existe des conditions et en fait, j'ai plutôt tendance à croire qu'elles sont plutôt générales. Il existe des conditions sous lesquelles le marché ne peut pas à la fois résoudre le problème de la frime, des incitations marginales, et résoudre le problème de participation. C'est-à-dire que les plus mauvais, les pays qui ont les thétas les plus faibles, qui ont donc les coûts d'efforts les plus importants, ces pays-là, ils n'ont pas envie de participer au marché, ils préfèrent quitter le marché et participer à un scénario business as usual. Donc, en gros, le problème, c'est que le prix, il reflète des bonnes incitations, mais il est trop élevé. Il est trop élevé pour ceux qui sont les plus mauvais à faire de l'effort. Ces gens-là ont envie de quitter l'accord. Et donc, il y a un arbitrage à faire dans ces mécanismes. Il y a un arbitrage à faire entre les incitations à la marge et les incitations à la marge extrinsèque, donc entre les frimes et les frais. Et ce n'est pas seulement le fait du marché. Tout mécanisme, que ce soit le marché, le contrat, la contribution volontaire, tout mécanisme devra faire face à des arbitrages entre les incitations marginales à faire de l'effort et les incitations à participer à des mécanismes qui font faire des efforts. En gros, pour tous ces mécanismes, ce qu'on peut démontrer, c'est que on peut améliorer la situation, c'est-à-dire qu'il existe une large classe de mécanismes, que ce soit au travers de contrats, de contributions volontaires, de marchandages généralisés, mais tous ces mécanismes ont le même problème. Si vous voulez que les gens participent, il faut abandonner l'idée qu'ils vont parfaitement internaliser l'impact de leurs décisions sur le reste de la société. Il y a un arbitrage fondamental. Participation versus incitation individuelle. Donc, si vous voulez du monde qui accepte le mécanisme, il va falloir concéder sur les incitations. Il va falloir avoir un prix, ici, qui ne reflète pas l'impact sur le reste de la société, mais qui soit inférieur. Okay. C'est un arbitrage inévitable, ou presque inévitable, et c'est pour ça que je dis que c'est presque jamais, que le marché ne marche presque jamais. Mais le marché, comme tout autre mécanisme, on ne peut pas avoir efficacité et participation. Okay. Alors je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Hein ? Oui, 3-4 minutes, ok, 5 minutes. Ok, mais bon, en gros, j'ai presque fini, parce que maintenant, puisqu'on ne peut plus atteindre le premier rang, on peut peut-être essayer d'atteindre le second rang, avoir des solutions alternatives, des mécanismes qui marcheraient un peu, qui amélioreraient la situation par rapport au business as usual, mais peut-être qu'ils ne seraient pas capables d'atteindre, et on sait qu'ils ne seront pas capables d'atteindre l'efficacité complète. Donc voilà un mécanisme qui est une espèce de fond vert, qui est basé sur... qui essaie d'obtenir un compromis entre les incitations marginales et les incitations à participer. Et pour avoir un compromis entre deux objectifs, c'est bien d'avoir deux options dans le mécanisme. De ne pas chercher à avoir tous les agents, tous les pays soumis aux mêmes conditions. Il y a une méta-règle. La méta-règle, c'est que chaque pays est en face du même nombre, des mêmes possibilités, des mêmes options, mais à l'intérieur, on va laisser les différents pays choisir des options en fonction de leur information privée. Et donc, on va avoir deux options dans ce mécanisme. Une option qui consiste juste à mettre de l'argent dans un fonds, et une autre option qui consiste à peut-être mettre de l'argent dans le fonds, mais aussi être subventionné pour ses investissements. Le fonds est alimenté par les contributions de tout le monde. Tout le monde contribue un peu sur le fonds, mais les contributions sont différentes si ensuite on choisit l'option incitative. Dans l'option incitative, on va aussi avoir une subvention pour chaque unité d'investissement pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on va avoir un peu de prix pour certains, pour ceux qui vont choisir cette option incitative, et on ne va pas avoir de prix, juste une contribution fixe pour ceux qui ne la choisissent pas. Donc deux options, une option incitative, une option qui assure la participation du plus grand nombre, un équilibre budgétaire, ceux qui participent et ne font que ça, mettre de l'argent, mais ils vont bénéficier bien sûr de l'effort de ceux qui investissent. Donc, on ne met pas de l'argent contre rien, quoi. On met de l'argent parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui vont investir avec cet argent. Et puis, une option plus incitative qui consiste pour d'autres à peut-être mettre de l'argent, mais aussi à être rémunéré à la marge pour leur effort. Et à la marge, on ne va pas être rémunéré complètement. Hein. On ne va pas être rémunéré en fonction de la subvention pigouvienne qu'il faudrait faire pour internaliser complètement l'impact de l'effort sur le bien-être global. Ça va être un peu moins. Et l'équilibre budgétaire est assuré de manière à ce que les contributions fixes des différents groupes de pays, hein, du groupe qui choisit l'option incitative et du groupe qui choisit juste l'option participative, il faut que l'équilibre budgétaire soit assuré. Donc les contributions globales couvrent le coût de la subvention à ceux qui sont les plus à même d'investir. Et la proposition, c'est qu'il existe ainsi un menu optimal avec des contributions fixes associées à ces différents groupes et aussi avec une subvention à la marge qui, elle, encore une fois, ne reflète pas la solution de premier rang. On a un prix qui est inférieur à la subvention pigouvienne. Et seuls les pays les plus efficaces vont choisir cette option incitative. Les autres restent sur une solution qui dépend. La leçon, c'est que si vous voulez des gens qui participent au mécanisme, si vous voulez assurer la participation du plus grand nombre, il faut être prêt à concéder sur l'efficacité des mécanismes, à avoir des prix, des subventions qui ne reflètent pas la valeur sociale de l'effort, qui sont inférieures. Donc, la leçon 1, c'est que les mécanismes de marché de marché plus simples et purs, sont inadaptés dans ces contextes d'interaction entre États souverains à cause de ces contraintes de participation. Il faut trouver autre chose, il faut trouver des solutions avec des possibilités d'options, d'être dedans ou pas dans le mécanisme, de contribuer différemment, avec peut-être des choses incitatives, mais pas aussi incitatives que le marché, et que c'est uniquement dans cette direction-là qu'on peut assurer plus de participation. Et l'arbitrage est un arbitrage fondamental entre incitation et participation, on ne peut pas l'éviter. C'était le théorème 2. Mais on peut faire des solutions de second rang, encore une fois. Et ce qu'on a démontré dans un des articles avec Wilfried Sanzanman, c'est que même si vous pensiez à la meilleure solution de second rang, la meilleure, vraiment quelque chose de ce que nous, les théoriciens, on appelle l'optimal mechanism design, hein, la meilleure chose, mais la meilleure chose, elle n'est pas loin de ce qu'on peut atteindre avec seulement deux options. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais ça permet de faire vraiment le meilleur des mondes possible. Possible. En conclusion, quels sont les problèmes ouverts ? Problème ouvert, bien sûr, c'est d'aller un peu plus dans l'économie politique de ces modèles et d'essayer de modéliser de manière plus détaillée ces coûts d'opportunité, ces coûts à faire de l'effort. On a vu l'importance qui jouait dans la détermination des conditions sous lesquelles on peut faire des choses efficaces ou pas, mais il faut essayer de modéliser ça, essayer d'avoir des petits modèles d'économie politique interne qu'on puisse greffer à ces problèmes de mechanism design globaux, d'accord, globaux. Un deuxième problème que j'ai évacué rapidement et qui est très important, c'est le problème d'enforcement des traités, le problème non seulement il faut le signer, mais il faut le ratifier, mais ensuite il faut l'appliquer. Okay. Donc, lorsqu'on a ce problème d'application des traités, on est en gros en train de durcir les contraintes de participation. On a les contraintes d'application sont encore plus dures, si vous voulez, que les contraintes de participation. Donc, ça ne fait qu'exacerber les arbitrages entre FRIM et FREM que j'ai présentés. Ensuite, bien sûr, ces petits modèles sont des petits modèles statiques. Et ce qui nous importe, c'est de comprendre l'évolution du climat dans le temps. Et donc, dans un monde où il y a d'incertitudes, où l'incertitude va être révélée, l'incertitude sur les préférences, l'incertitude sur les technologies, peut-être, tous ces composants stratégiques ont des conséquences dynamiques importantes qu'il faudra utiliser par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie.